l'épopée des musiques noires.
Joe Farmer.
It don't mean a thing.
Nathalie Laporte.
If it ain't got that swing.
Jigida, kani jigi misenya, omani kobena.
L'épopée des musiques noires.
It's okay. You know, it's okay.
Ah, merci.
C'est une sacrée aventure humaine que nous allons vous raconter aujourd'hui. Depuis plusieurs années, un musicien français plutôt virtuose et à l'affût de sonorités planétaires sentait monter en lui le besoin de se confronter à des racines ancestrales qu'il ne soupçonnait pas vraiment. C'est au contact du regretté chanteur et guitariste ougandais Geoffrey Oryema que l'appel de l'Afrique se fit plus présent. David Jacob, soyez le bienvenu.
Ben merci pour votre accueil, cher Joe.
Votre histoire est étonnante car l'album que vous nous présentez aujourd'hui est le fruit d'un long cheminement qui vous a mené au jazz, au Bénin, à la contrebasse. Tout cela germait en vous depuis quelque temps, mais il y eut forcément un déclic. Quand et comment avez-vous découvert que vous aviez une fibre jazz alors que vous venez du rock ?
Oh, la fibre jazz a toujours existé. La fibre rock, elle est relative à mon lieu de naissance. Je suis né au Havre, en France, hein, sur la côte ouest. Je suis West Coast. Et au Havre, on a une vraie culture rock. Et puis le jazz, parce que lorsqu'on aime la guitare basse, forcément, on s'intéresse à ce grand bassiste américain qui est Jaco Pastorius. Et forcément, si on est intéressé par Jaco Pastorius, on est intéressé par Weezer Report. Et lorsqu'on écoute Weezer Report, eh ben, on est inspiré par Spiro Gerard, par d'autres groupes de cette époque. Après, j'ai une formation de trompettiste, donc on écoute Miles Davis, on écoute Kind of Blue, et puis en écoutant Kind of Blue, on découvre Bill Evans. Et c'est plein de portes comme ça qui s'ouvrent au fur et à mesure, ce qui fait que le jazz a toujours été dans ma culture. Il faut savoir aussi que lorsque j'ai 17 ans, je m'engage dans la Marine nationale, et quand je suis à Cherbourg, dans la Manche, toujours sur la côte ouest, je suis Cats. Alors, c'est quoi les Cats ? C'est des jeunes gamins qui s'habillent avec de la sape des années 50 et on écoute de la musique des années 50. Donc, je découvre Amos Milburn, Thurston Harris, Joe Turner. Voilà, j'écoute Nat King Cole aussi. Cette période qui est vraiment une période que je considère vraiment de transition dans la musique noire américaine, où il ne faut pas oublier que Duke Ellington, au départ, il fait de la musique aussi pour que les gens puissent danser. Et donc, moi, je suis là-dedans, dans cette musique qui est dansante, mais qui est aussi très jazzy dans les structures harmoniques. C'est des choses qui font partie de ta culture, qui sont en toi, et qui inconsciemment, un jour, doivent ressortir, d'une façon ou d'une autre. Je dirais que c'est ce mélange, ce mix de tout ça, ce mélange de culture aussi, que j'assume complètement et qui ressortent aujourd'hui dans cet album.
Votre trio s'appelle le Yacouba Trio.
Oui.
Pourquoi donc ? C'est un surnom que l'on vous donne ?
Oh, j'ai tout simplement africanisé mon nom. Yacouba, c'est Jacob. Mes amis m'appellent Daoud aussi. Oui, j'ai africanisé mon nom parce que Jacob, c'est un nom d'esclave. Jacob, c'est le nom qu'on a donné à mes ancêtres martiniquais. C'était pas leur nom de famille au départ. Et honnêtement, je voyais très mal ce trio s'appeler David Jacob Trio. J'avais un peu de mal avec ça. Et Yacouba Trio, ça sonnait tellement bien que ça aurait été vraiment bête de passer à côté.
Et puis, il y a le titre de cet album, Ouida Road, qui nous emmène immédiatement sur la route des esclaves béninois au XVIIIe siècle, où 2 millions d'hommes et de femmes ont été déportés vers les Amériques et les Caraïbes. Tout cela doit avoir une résonance particulière dans votre esprit, car vous êtes martiniquais, normand et ancestralement béninois. Que se dit-on quand on réalise qu'on est le fruit d'une épopée aussi dramatiquement riche?
Tout d'abord, j'ai toujours pensé qu'un arbre, pour bien pousser, il fallait qu'il ait de bonnes racines, et que le gros problème pour la majorité des descendants d'esclaves, c'est qu'ils n'ont pas toujours connaissance de leurs racines. Et j'ai eu cette chance. Je vous remercie d'avoir cité Geoffrey Oryema, à qui je dois beaucoup. La première répétition avec Geoffrey Oryema, je suis à la basse, il me met un micro devant, je dis « mais moi je chante pas ». Il me dit « mais si, tu chantes ». Il dit « nous, voilà, quand tu chantes, tu joues d'un instrument, quand tu joues d'un instrument, tu chantes, donc tu es avec moi, donc tu vas chanter ». Et il m'a poussé à ça, à pouvoir faire des chœurs avec lui. Mais surtout, il m'a permis de voyager et c'est lui qui m'emmène au Bénin la première fois. Je pars avec lui sur un festival au Bénin. Et j'ai cette sensation, en arrivant sur le tarmac, que effectivement, je suis comme chez moi. C'est très étrange comme sensation. Et donc, j'ai pris cette route qui mène de Cotonou à Ouida. Ce qui est terrible sur cette route, c'est que les pêcheurs, quand ils remontent leur filet, sont obligés de traverser la route qui mène à Ouida, tout simplement parce qu'il y a un réchauffement climatique. La mer grignote la plage. Ils ont de moins en moins de place pour pouvoir tirer leur filet. Donc, il faut attendre qu'ils aient fini de tirer leur filet pour pouvoir continuer notre périple, de pouvoir arriver à cette porte du non-retour, de faire tout le cérémonial que pouvaient faire les esclaves avant de partir. C'était quelque chose déjà, à cette époque, de très touchant. Mais de savoir, quelques années après, parce que mon frère de sang fait ses tests ADN, quand c'est encore possible en France, et de savoir que je suis béninois à 25%, ça c'est quelque chose de très très troublant. C'est troublant et c'est réconfortant. Parce que là, tu te dis effectivement, je connais mes racines. Et tout s'explique. C'est-à-dire de trouver une réponse aussi à des questions qu'on peut souvent se poser quand on est un descendant d'esclaves. Même si j'assume pleinement, parce que je suis métisse aussi, mes racines européennes, française, évidemment, et surtout normande. J'aime ma Normandie.
Est-ce que vous avez tenté de restituer dans cet album Ouida Road une part des traditions musicales béninoises?
J'essaie justement d'amener... Alors ça a été le boulot de mon ami et musicien, Hakim Molina, de ramener le côté percussif. Ce morceau, il commence effectivement par une intro percussive. Et en même temps, on arrive... à un moment donné, en ce titre, où on est très proche de la musique de la Nouvelle-Orléans. C'est une façon de pouvoir exprimer ce qui s'est passé aussi musicalement sur cette planète. C'est-à-dire que c'est ces musiciens aussi qui ont ramené toute cette culture. Voilà, encore une fois, on parle de mixité, on parle de métissage. Voilà un mot qui m'intéresse, qui ressemble beaucoup à cet album. Je le sens très métissé. En fait, j'essaie de faire... de façon très très honnête, une musique que je considère comme une musique populaire, parce que le jazz, au départ, c'est une musique populaire qui ne s'adresse pas uniquement à une élite, bien au contraire, c'est une musique de militant, et je pense à ma façon d'être un militant. J'ai voulu faire un album qui me ressemble le plus possible, donc j'y ai mis tout ce que j'étais capable d'y mettre. Désolé pour l'expression, mais j'ai pas voulu péter plus haut que mon cul. J'ai fait simplement ce que je pouvais faire à ce moment-là, en étant le plus inspiré possible. Tous les titres sont inspirés. Je raconte une histoire. Durant les concerts, j'explique. Voilà, tel titre, il m'est arrivé comme ça. Voilà ce que j'exprime, pourquoi. Et Ouida Road en fait partie, évidemment. Et je trouvais ça très pertinent que cet album porte le nom de Ouida Road. Alors le Ouida, vous l'avez remarqué, je l'ai orthographié sans un H.
Oui, d'ailleurs, pourquoi?
Parce que le H ne fait pas partie de mon prénom. Dans David, il y a le I, il y a le D, et dans Daoud aussi. Et que cet album, c'est aussi ma route, c'est mon chemin, une partie de moi. C'est beaucoup plus simple pour moi de m'exprimer au travers des notes qu'avec des mots. L'endroit où je me trouve le plus rassuré, c'est la scène, c'est derrière mon instrument, dans cet espace de liberté. C'est une bénédiction de pouvoir, en étant artiste, d'avoir ce terrain de jeu. Donc je suis plus à l'aise derrière mon instrument à faire des notes et que derrière un micro.
Vous le disiez, le jazz permet toutes les audaces et tous les croisements culturels. Est-ce que c'est une forme d'expression qui facilite votre récit afro-caribéen?
Quand on parle de Caraïbes, on parle évidemment aussi de Cuba.
Des Antilles.
Des Antilles. Et on parle de cette mixité musicale. Et on parle aussi de cette proximité avec les États-Unis. Les Caraïbes sont beaucoup plus proches des États-Unis qu'elles ne le sont de l'Europe. Donc il y a toujours eu une interaction entre les États-Unis et les Caraïbes. Avec la musique aussi. On a toujours écouté, doit-on parler de la Jamaïque et de leur culture? Les Jamaïcains ont une culture musicale incroyable. Mais il ne faut pas dénigrer non plus la culture des musiciens caraïbéens et notamment des musiciens antillais qui ont certainement été les premiers à écouter du jazz avant même que le jazz n'arrive en Europe. Et ça nourrit leur musique. Quand j'écoute Malavoie, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Quand j'écoute Malavoie et que j'écoute cette façon de jouer du violon, je me dis qu'il n'y a que dans les Caraïbes qu'on peut jouer le violon de cette façon. Mais quand on écoute la façon de jouer du violon en Martinique, en Guadeloupe, et qu'on écoute cette façon de jouer du violon à Cuba, on dit mais ils sont frères, ils ont eu le même professeur.
Ce n'est pas le violon classique européen.
Loin de là. Mais avec la même technique, mais c'est dans le phrasé, dans la façon d'interpréter, c'est vraiment quelque chose d'unique.
Je vous propose, David Jacob, d'écouter le titre qui symbolise votre quête identitaire. Voici Ouida Road, sans H à Ouida. Ouida Road, le titre qui donne son nom à l'album de David Jacob, notre invité dans l'épopée. Qu'avez-vous appris de ce voyage au Bénin et de cette aventure discographique jazz finalement ?
J'ai appris à me réinventer. J'ai appris beaucoup de mon frère Bernie Bonvoisin, le chanteur du groupe Trust. Un groupe de rock français qui existe depuis les années 70. Et Bernie, il parle souvent de ça, c'est-à-dire le fait de se mettre en danger et de sortir de sa zone de confort. C'est ce que j'ai fait avec cet album. Je me suis mis en danger et je suis sorti de ma zone de confort. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple pour moi, depuis le temps qu'on me sollicitait pour faire un album, de dire tiens, je vais faire un album de rock, tout simplement. Eh ben non. Non seulement je ne suis plus à la basse électrique, puis je fais la contrebasse, et je vais dans un style qui est aux antipodes de Trust. Certainement, si on doit classifier la musique. Mais en ce qui concerne le groove, l'inspiration blues, je suis obligé de repenser, forcément, à cette interview qu'a pu donner Mingus, contrebassiste américain, lorsqu'il est venu à Paris fin des années 60, je pense que c'était en 69, où il parle de sa musique. Il dit « Voilà, moi, ma musique, à un moment donné, les gens ne comprenaient plus ce que je faisais. » Il dit « Je suis revenu aux fondamentaux, j'ai refait du blues, et là, d'un seul coup, toutes les portes se sont ouvertes à nouveau. » Le Bénin m'a appris ça, m'a ramené donc aux sources. J'ai pu jouer avec des musiciens fabuleux, hormis le fait que j'accompagnais Geoffrey Oryema, mais de rencontrer des musiciens justement où cet esprit de liberté était omniprésent dans leur musique. Et c'est bizarre aujourd'hui de revendiquer notre liberté alors qu'on a des racines noires et surtout des racines d'esclaves. Je crois qu'on est toujours dans cette recherche incessante de liberté. Et je me suis senti libre en faisant cet album. Et je me sens libre quand je joue ces titres-là. Et c'est un sentiment que j'ai envie de faire passer aussi, de transmettre ce sentiment d'être libre. Le jazz nous permet d'être libre. Une version enregistrée ne sera jamais la même lorsqu'on va faire un concert. Chose que je ne peux pas forcément vivre en jouant avec Trust. On sait que le morceau, il commence comme ça, il finit comme ça, il y a tant de refrains, à la fin, on fait ça, on fait une mise en place. Dans le jazz, non. Dans le jazz, on ne jouera jamais deux fois la même chose. En fait, c'est de la pâte à modeler. La musique que j'essaie de faire, c'est une musique qui est très, très imagée. Quand je suis avec mes amis, je leur dis, voilà, la façon dont on doit interpréter ce morceau, je vous explique dans quel état d'esprit on doit être, quel est le cadre. Mais une fois que vous êtes à l'intérieur de ce cadre, les gars, éclatez-vous, amusez-vous, voilà.
Est-ce que le fait d'être un musicien aguerri comme vous suffit à se sentir à l'aise dans le rôle de leader ?
Non, du tout. Du tout. C'est quelque chose de tout nouveau, je ne connaissais absolument pas. Il faut bien comprendre, vous comprenez que lorsque vous êtes un musicien dans un groupe comme Trust que je rejoins en 96, en 1996, alors que le groupe existe depuis 77 et dont je ne suis absolument pas un des fondateurs et encore moins un des leaders, on se laisse porter par l'histoire. Et dans toute honnêteté, on est très assisté. Lorsque c'est votre projet, alors les choses changent véritablement. Je ne savais pas à quel point ça pouvait être anxiogène, par exemple. C'est être responsable. Aussi, c'est des responsabilités que je ne connaissais pas. Ça n'a rien à voir avec une responsabilité de parent. Non, ça n'a rien à voir du tout. Il y a des gens qui travaillent autour de toi. Il y a un label, il y a une attachée de presse, il y a tes musiciens.
Vous donnez des interviews.
Je donne des interviews. oui, ça, je pense que c'est la partie plaisante de l'histoire, même si ce n'est pas l'exercice dans lequel je me sens le plus à l'aise. Mais c'est quelque chose de tout nouveau. Donc c'est pour ça, quand je vous disais que je me réinventais, oui, je me réinvente et c'est une belle aventure. Voilà, j'apprends tous les jours, j'apprends.
Est-ce que vous avez des maîtres, des héros, des mentors à la contrebasse ?
Oui, évidemment. Je suis obligé de penser aujourd'hui à un monsieur qui vient de fêter ses 88 balais. Je pense à Ron Carter.
Ah oui.
Ron Carter, grand contrebassiste américain. C'est le contrebassiste le plus enregistré dans l'histoire de la musique.
Il apparaît sur plus de 2200 enregistrements.
Vous imaginez 2200 enregistrements ?
C'est fou.
C'est inimaginable. Donc j'ai eu la chance d'aller le voir en concert au New Morning à Paris. Le monsieur faisait deux sets dans la journée. Un concert à 19h, un concert à 21h. Et le lendemain, il partait en Allemagne ou en Italie, peu importe. Mais il est tout le temps en activité. Il enregistre, il va voir des jeunes. Enfin, et il continue à enseigner aussi, il a des méthodes pédagogiques. Voilà, Ron Carter.
Et il a fait partie de l'immense quintette de Miles Davis avec Wayne Shorter, Tony Williams, Herbie Hancock,
oui.
Dans les années 60.
Ah oui, un monstre, un monstre.
Et vous alliez dire aussi...
Ah bah je suis obligé de citer, parce qu'il a été mon professeur, mon maître, et que c'est un grand monsieur, c'est Yves Torchinski, contrebassiste français, un des cofondateurs de l'orchestre de contrebasse, et qui a été mon professeur lors de mes études au conservatoire. Et je lui rends hommage sur un des titres, c'est Whitey. C'est-à-dire que si je dois orthographier Whitey phonétiquement, c'est un Y et un T. Pour Yves Torchinski, tout simplement. C'est un titre qui lui rend hommage et l'album commence par Whitey.
Je trouve votre jazz très accessible, David Jacob, mais en même temps très virtuose, sans être simpliste ou convenu. Et je l'ai vraiment ressenti sur un titre comme LH. Qui est d'ailleurs ce LH ?
LH pour Le Havre. Mes racines, Le Havre. Et cette inspiration, je voulais vraiment écrire un titre sur cette ville, parce que c'est ma ville de naissance et que cet album me raconte. Et je voulais inviter aussi un musicien. Il s'avère que je suis très, très ami avec Ludovic Louis. Quand j'habitais au Havre, adolescent, ses grands-parents habitaient l'étage au-dessus. Donc j'ai connu sa maman fréquentant son papa. J'ai connu sa maman enceinte. Donc, nos familles sont très proches. Et lorsque je l'ai appelé en disant « Ludo, j'ai une idée d'un titre, j'aimerais beaucoup que tu viennes jouer dessus », il m'a dit « Oui, tout de suite, mon frérot ».
Écoutons la fluidité de David Jacob en trio avec Ludovic Louis. Voici LH. LH, un nouvel extrait de Ouida Road, le premier album jazz de notre invité David Jacob avec au bugle votre camarade Ludovic Louis, martinico-normand comme vous,
oui,
et partenaire de Lenny Kravitz, pas comme vous.
Non, du tout.
Parmi tous les musiciens que vous avez croisés, lesquels vous ont le plus marqué et pourquoi ?
Pour commencer, je serai éternellement reconnaissant à Norbert Krief et à Bernie Bonvoisin de m'avoir permis de vivre cette aventure avec le groupe Troll. Ce sont les fondateurs de ce groupe et ça fait partie de ma vie depuis 96. Donc ça va faire bientôt 30 ans que je les connais. Déjà, cette reconnaissance. On a parlé de Geoffrey Oyema, évidemment. Je dois parler aussi des musiciens algériens que j'ai pu rencontrer au Havre. Un groupe qui s'appelait Zmen et où j'ai appris la musique roloto. Et je peux vous assurer que lorsqu'on apprend ça avec des Algériens, le raï algérien, on a appris beaucoup de choses. Je suis obligé de penser aussi à Toumast, des nomades, des Touaregs. D'avoir joué avec les Touaregs aussi, j'ai appris beaucoup de choses. C'est incroyable de les voir avec cette humilité qu'ils ont sur l'instrument. Ils ont découvert la guitare électrique avec Santana. Donc eux, un capot d'astre, ce qu'on met sur la guitare pour changer de tonalité, c'est un stylobique avec un, un gros élastique. Mais ce sens du rythme, ce sens de la mélodie, voilà. Donc je suis obligé de penser à Toumast. Je suis obligé de penser à Yves Torchinski. Mmh. Mais je vais citer aussi Charlotte Testu, qui a été ma prof de musique classique. Grande pédagogue et qui est très très ouverte sur le... En fait, j'ai choisi de faire des études avec elle parce que le peu de vidéos que j'ai pu voir d'elle, c'est qu'elle avait une technique d'archer qui était incroyable, mais je la voyais aussi taper sur sa contrebasse avec des maillots. Et je me suis dit, cette fille est très intéressante et c'est avec elle que je vais prendre des cours. Donc je dois la citer, c'est très important. Après, sachez, Joe, que dans ce métier, on rencontre beaucoup de gens, oui. Surtout que je suis commencé à être un vieux musicien, je fais partie des cadres, donc j'en ai rencontré un paquet, et je pense que toute expérience, quelle qu'elle soit, est bonne à prendre.
Avec les années, on mûrit, on apprend, on s'enrichit, est-ce que Ouida Road aurait pu être conçu il y a 10 ou 15 ans ?
Du tout. Et merci de me poser cette question. On m'a souvent motivé pour que je puisse faire un album perso, et j'en ai jamais eu le courage. J'ai toujours été admiratif des gens, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, des leaders. J'ai accompagné des leaders. J'ai toujours été admiratif de ces gens qui montaient, qui étaient frontman, qui défendaient leur histoire. Certains avec des mots, d'autres avec leur instrument. J'étais pas prêt. Je suis d'accord, j'étais pas prêt. Là, c'est arrivé au bon moment. Alors, évidemment, on m'a mis un petit coup de pompe dans le cul, parce qu'il n'est pas arrivé comme ça, cet album. C'est-à-dire qu'il y avait un but aussi, il y avait une raison. Mais les choses se sont accélérées. C'est-à-dire que... Une fois que j'avais fait les 4 titres, quand je les ai envoyés à un label qui vous rappelle 15 jours après en disant « moi je vous signe pour un album », et qu'on l'envoie à un tourneur qui dit « je vous ai trouvé une date », on ne fait pas une date avec 4 titres et on ne fait pas un album avec 4 titres. Donc là, effectivement, je suis rentré dans une autre aventure. C'est pour ça que cet album, il est tout particulier pour moi. Mmh. Il est tout particulier parce que c'est un album qui m'emmène vers une aventure qui, comme toute aventure telle que je le conçois, peut seulement vous amener des surprises, bonnes ou mauvaises. Mais jusqu'alors, et je touche de la peau de singe, que des bonnes surprises.
David Jacob, nous allons nous quitter avec un autre bel exercice de style, Hell Heaven Blues. Mmh. C'est en tout cas un autre titre épatant de votre album Ouida Road.
Thank you.
Hell Heaven Blues, le Yacouba Trio emmené par le contrebassiste David Jacob, extrait de l'album Ouida Road, et on cite également Hakim Molina
à la batterie
et Nicolas Noël
au piano.
David Jacob, nous avons désormais hâte de vous voir sur une grande scène parisienne, le New Morning par exemple.
Oui, évidemment que j'aimerais bien jouer au New Morning. J'y ai vu Ron Carter, donc j'ai envie d'y jouer, évidemment. J'y ai déjà joué hein, avec d'autres artistes, mais oui, j'aimerais bien, oui, le New Morning.
Et le Bénin, alors ?
Oh, c'est marrant que vous m'en parliez, parce que justement, c'était une de mes réflexions. Et si, pour aller jusqu'au bout de cette histoire, on ne devrait pas aller au Bénin et jouer cet album au Bénin ? Et je suis dans ce genre de réflexion. C'est très pertinent, ce que vous me dites là, un truc de fou.
Eh bien, écoutez, nous serons patients et attentifs.
Ah ouais.
Merci, David Jacob, d'être passé nous voir.
C'est moi qui vous remercie, Joe, et merci pour votre accueil. Merci, et c'est troublant que vous m'ayez aussi bien cerné. C'est vraiment touchant.
Merci à vous, et puis vous revenez nous voir pour le deuxième.
Ah, avec grand plaisir, avec grand plaisir, avec grand plaisir.
L'émission du jour était réalisée par Nathalie Laporte, qui pianote en régie finale. Un rendez-vous à noter avant de se quitter, le festival Jazz sous les pommiers à Coutances, en Normandie, pas très loin de chez vous, David Jacob, commence ce week-end dans le nord-ouest de la France. Vous pourrez applaudir sur place des artistes aussi divers que Coco Montoya, Judith Hill, l'African Jazz Roots, Arnaud Dolmen, Salif Keïta, etc., etc. Jazz sous les pommiers, c'est jusqu'au 31 mai. Si vous êtes parisien, un autre rendez-vous d'envergure vous attend, le retour de Richard Bona et Alfredo Rodriguez à l'auditorium de la scène musicale sur l'île Seguin près de Paris. Ce sera le 27 mai. La semaine prochaine, on vous emmène dans une exposition Disco I'm Coming Out à la Philharmonie de Paris. Nous allons guincher sous les boules à facettes. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.